Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Sachez que nous sommes en train de préparer pour vous des t-shirts de notre collection exclusive Le Coin du Crime, que tous nos sponsors VIP recevront gratuitement chez eux avant la fin du mois de mars. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dague, Joël LVT et une nouvelle venue, Delphine Ambla. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. Et on commence. En juin 1995, deux fillettes, Julie Lejeune et Mélissa Russo, disparaissent, sans laisser de traces alors qu'elles sont sorties se promener près de chez elles. Pour les parents, pas de doute possible. Les petites ont été kidnappées. Mais personne ne veut les croire. Pas même les autorités. Personne ne le sait encore, mais cela marque le début de la longue et sordide affaire du Trou, celle qui a bien failli faire exploser la Belgique. Marc Dutroux reste à ce jour l'une des figures les plus haïes de l'histoire criminelle belge. Son nom est devenu synonyme de terreur et de désespoir pour des milliers de personnes à travers le monde. L'enquête enchevêtrée va déclencher une série d'événements qui vont révéler l'ampleur de l'horreur perpétrée par celui que l'on surnommera le monstre de Marcinelle. Mais qui est donc cet homme dont les actes atroces ont secoué la société et ont déclenché une série de réformes majeures dans le système judiciaire belge? C'est ce que je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi dans notre affaire du jour. Tout commence à Grasse-Ologne. Nous sommes le 24 juin 1995. Il fait beau, il fait chaud, les enfants sont en vacances et il règne une sérénité dans cette banlieue tranquille liégeoise. Deux amis, Julie Lejeune et Mélissa Russo, âgées toutes les deux de 8 ans, jouent devant chez elles. Les deux fillettes fréquentent la même école, sont très complices et leurs parents, qui sont également voisins, se sont liés d'amitié à travers elles. Gino Russo, le père de Mélissa, est d'origine sicilienne. Son insertion dans la société belge a été rapide. Lui et sa femme Karine forment un couple uni et aimant. Il en est de même pour le couple Lejeune. Ses jeunes parents, appartenant à la classe laborieuse, partagent les mêmes valeurs de convivialité, d'entraide et de simplicité qu'ils ont à leur tour transmis à leurs enfants. Vers 17h, Julie et Mélissa demandent la permission d'aller à vélo jusqu'au pont de l'autoroute qui relie Liège à Bruxelles. C'est pour saluer les voitures, une habitude bien innocente qui fait passer le temps aux deux amis. Karine Russo, la maman de Mélissa, donne son accord. De toute façon, elle n'a pas à s'inquiéter. Le périmètre est sûr, proche de chez eux, et les filles ont l'habitude de l'emprunter régulièrement, à pied ou à bicyclette. Tout le monde se connaît par ici et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Sauf que les heures passent. Et Julie et Mélissa ne rentrent pas à la maison. Paniquée, Madame Russo avertit aussitôt toute sa famille et les parents de Julie. Accompagnée de proches et de voisins, la maman fait le tour du pont surplombant l'autoroute. Mais pas de signe de sa fille ni de son amie. Même leurs bicyclettes ont disparu. Ont-elles décidé de partir au-delà pour faire le tour du quartier? Non. Elle n'oserait pas. En début de soirée, les deux familles réunies décident de prévenir les gendarmes. Ils arrivent sur les lieux un quart d'heure plus tard. Ces derniers refont le parcours supposé par les deux fillettes. En vain, elles ne sont nulle part. Sur place, elles n'ont laissé aucun indice, aucune trace de leur passage, à savoir celle des roues de leur vélo. C'est bien étrange. Toutefois, les gendarmes se veulent rassurants. « Oh, il s'agit sûrement d'une fugue. Elles sont petites, elles finiront bien par rentrer, vous verrez. » Mais les parents et leurs proches s'insurgent et se sentent offensés par ce qu'avancent les enquêteurs. Jamais Julie ou Mélissa n'auraient pensé à fuguer un jour. Elles n'ont que 8 ans, sont saines, très aimées par leurs parents, heureuses dans leur famille, vivent dans des foyers sans problème et ont les activités et les passe-temps simples des petites de leur âge. D'autant plus qu'elles préparaient leurs costumes pour une petite fête de la salle communale, un projet qui leur tenait très à cœur et auquel elles dédiaient tout leur temps. Devant la passivité et la nonchalance des gendarmes, les couples Russo et Lejeune décident de réagir immédiatement. À la tombée de la nuit, alors que leurs filles ne sont toujours pas rentrées, ils décident d'un commun accord de contacter l'association bénévole Marc et Corinne, dont la spécialité est la recherche des enfants disparus. Le président de l'association, Jean-Pierre Malmandier, déclenche dans la foulée une grande campagne d'affichage dans l'espoir de recueillir des témoignages. Pour ce faire, avec l'aide de ses acolytes et à grand renfort d'encre de photocopieuse, il quadrille tout le périmètre de la disparition. Entre-temps, les parents, les parrains et marraines respectives des deux disparus continuent à passer des coups de fil au reste de leur famille et à toute personne susceptible de connaître de près ou de loin Julie et Mélissa. Mais personne ne les a vus. En l'espace de 2 jours, alors que ni Julie ni Mélissa ne sont rentrées, un élan de solidarité envers les parents se déclenche et un réseau de bénévoles se met aussitôt en place. Sous la bonne garde de Jean-Pierre Malmandier, pas moins de 25 000 affiches photocopiées sont placardées dans toute la Belgique, avec les photos en noir et blanc de Julie et Mélissa et les renseignements les concernant. À présent, plus personne dans le pays n'ignore que deux petites filles habitant Grasse-Hologne n'ont plus donné signe de vie depuis l'après-midi du 24 juin 1995. Malgré tous les efforts fournis par les familles et les bénévoles, l'enquête demeure au point mort. Cela dure plusieurs semaines. Un vrai supplice pour les couples Russo et Lejeune. Et puis, un soir, l'émission belge intitulée « Faits divers », diffusée à l'époque sur la chaîne nationale RTBF et animée par le journaliste Léon Michaud, décide de consacrer un numéro spécial sur l'absence des deux filles. Le journaliste a comme le pressentiment qu'il y a une zone d'ombre qui plane sur cette double disparition. Avant la diffusion, son producteur José Dessart et lui vont d'abord à la rencontre des parents. Là, les deux journalistes apprennent alors quelque chose de surprenant. Si les gendarmes se sont manifestés rapidement le jour de la disparition, il reste qu'il y avait un manque flagrant dans la coordination des recherches. Une absence complète de périmètre de sécurité. La brigade canine n'est intervenue qu'au niveau du pont surplombant l'autoroute au lieu de partir de la maison, etc. En somme, tout a été fait et remballé à la va-vite. Comme le raconte Gino Russo, le père de Mélissa, ce sont eux, les parents, qui ont organisé les premières battues avec les bénévoles, et ce, sans l'intervention du parquet ni du laboratoire de la police judiciaire, qui n'ont même pas pris la peine d'envoyer un représentant de la police scientifique pour prélever d'éventuelles traces. Dans les maisons des Lejeune et des Russo, c'est devenu la débandade. Les visiteurs vont et viennent, déambulent dans les chambres des filles, et les gendarmes omettent de dire aux parents que cela risque d'altérer des micro-traces. Nous sommes dans les années 90, et ce genre de précaution n'est pas vraiment respecté. Il reste que ce n'est pas une excuse valable. Durant la première diffusion de l'émission Faits divers, les parents de Julie et Mélissa ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer l'amateurisme des gendarmes, sous-équipés et obligés d'emprunter le GSM d'un voisin pour parler avec leurs coéquipiers, se montrant nonchalant, gauche, déboussolé, voire goguenard, répétant à qui veut que les filles ont fugué. La diffusion de l'émission, suivie par l'ensemble de la Belgique, fait son effet. Grâce au nombre considérable d'affiches, des appels commencent également à fuir de tout le pays. Les gendarmes reviennent alors à la charge et ordonnent aux parents de noter tout ce qui leur paraît étrange ou inhabituel. Tous les matins, vers 8 ou 9 heures, les familles se retrouvent avec les enquêteurs pour donner un compte-rendu des informations reçues la veille par téléphone. Les parents, suivant le conseil de l'association Marc et Corinne, veillent à garder une copie pour eux et donner un duplicata aux gendarmes. Un travail de fourmi qui avance lentement. Très lentement. Les parents des disparus, désespérés à faire accélérer la cadence, ont alors une idée. ils commencent à noter le numéro d'immatriculation de tous les véhicules qui passent dans le quartier. Fin août 1995, soit 2 mois après la disparition de Julie et Mélissa, les gendarmes font une annonce au couple Russo et le jeune. « Nous pensons détenir une piste », annonce-t-il. Cette piste serait un homme aperçu près du pont au-dessus de l'autoroute Bruxelles-Liège. Dans la foulée, un portrait robot est effectué. Visage émacié, lunettes, barbe de 3 jours, aucun autre signe distinctif. Le portrait est diffusé massivement, mais cela n'aboutit à rien du tout. La petite flamme d'espoir des familles s'évanouit. Et puis, les semaines passent, sans aucun rebondissement, sans aucune nouvelle. Alors, le doute commence à s'installer. Et si les gendarmes savaient déjà que c'est peine perdue, que les fillettes étaient déjà mortes et que cela ne servait à rien de déployer davantage de moyens logistiques? Durant cette période, un autre journaliste, Michel Bouffiou, poursuit le travail de Léon Michaud et devient le confident des parents de Julie et Mélissa. Bouffiou est témoin, malgré lui, des premiers accrochages entre les familles et les gendarmes. Un soir, en se rendant au domicile des Russo, il trouve là un enquêteur de la police judiciaire de Liège. Michel Bouffiou ne manque pas de noter une certaine moquerie dans l'attitude du policier par rapport à certaines hypothèses avancées par les parents. Car il faut souligner quelque chose. Depuis le déclenchement de l'affaire, les parents des disparus sont convaincus que leurs filles sont encore vivantes et cachées quelque part. Mais au niveau autorité, on est dans une toute autre logique. Pour elles, les filles sont sûrement mortes le jour même de leur enlèvement. De ce fait, ils ne souhaitent pas donner à l'enquête le degré d'urgence qu'elle est censée avoir. Cette opposition d'avis génère très vite le climat délétère qui va caractériser toute l'affaire. Il y a d'un côté les parents qui recherchent leurs filles et de l'autre, les policiers qui cherchent le ou les coupables. L'entente est donc quasi impossible entre les deux parties. Seulement, les familles vont découvrir autre chose. Elles soupçonnent à présent que l'enquête fait peut-être l'objet de la sempiternelle rivalité entre la police communale, la BSN, Brigade Spéciale de Recherche, et la gendarmerie. Et elles ont raison. Des tensions très palpables commencent à se manifester entre les différents représentants de ces autorités. Un simple exemple, quand les familles Lejeune et Russo communiquent une information à la gendarmerie, elles se rendent compte que la police ou la BSN ne l'ont pas, et vice-versa. Des cachotteries de mauvais goût qui font preuve d'un manque de professionnalisme flagrant, selon elles. Pendant ce temps, à Liège, et afin de superviser les recherches, la juge Martine Doutrève nomme le commissaire principal de la PJ, Daniel Lamocque, sur le terrain. Ce dernier se retrouve seul face aux gendarmes, hargneux de le voir ravir leur place par le biais de la voie officielle. Et c'est justement cette rivalité entre la police et gendarmerie, caractérisée par la concurrence féroce, la hargne et l'omerta, qui sera la clé de toute l'affaire, mais aussi l'un de ses points faibles majeurs dont les conséquences seront dramatiques à long terme. De leur côté, les familles demandent à la juge Doutrève la permission d'avoir accès au dossier. Mais c'est un non catégorique qu'ils reçoivent en guise de réponse à leur requête. On ignore d'ailleurs pourquoi, tout au long de l'enquête, la juge refuse de donner la moindre information aux parents des concernés. Pour tenter de détourner leur attention, Maître Doutrève essaie de trouver des excuses. « Oh, vous savez, j'ai une énorme charge de travail et ce n'est pas mon seul dossier. » Mais les couples Russo et les Lejeune n'en démordent pas, ils insistent et veulent connaître le contenu de ces fameux dossiers. Finalement, fin août, la juge accepte de les recevoir dans son bureau. Alors qu'ils s'attendent à voir une pile de documents, Maître Doutrève se contente de leur lire une lettre envoyée par un témoin anonyme. Son contenu fait froid dans le dos. Le témoin relate les circonstances dans lesquelles Julie et Mélissa ont été kidnappées, violées, tuées et mutilées. Témoignage réel ou fabriqué de toutes pièces? En tout cas, il sera le premier et le dernier que la juge fournira aux parents des fillettes, une façon de les faire taire et de les dissuader de revenir la déranger. Entre les familles et la justice, le dialogue est rompu. Livrés à eux-mêmes, les parents ne peuvent plus compter que sur l'intarissable solidarité des bénévoles et des journalistes pour pallier le manque d'informations officielles. Pendant ce temps, dans la presse, l'affaire n'est plus évoquée, ou à peine, dans les colonnes de disparition. Mais les semaines s'écoulent, et chaque jour dure une éternité pour les parents, dépourvus d'indices, de preuves. Les familles tremblent à chaque coup de fil et redoutent l'idée de voir le dossier définitivement classé. C'est dans cet élan que, le 13 septembre 1995, les parents décident d'alerter à nouveau l'opinion publique dans l'émission de Faits divers. Les journalistes et producteurs de l'émission, Léon Michaud et José Dessart, les connaissent déjà suite à une première entrevue. Ils veulent, comme eux, briser ce mur du silence. C'est comme s'ils voulaient confronter les parents directement aux autorités par le biais de la caméra. Michaud et Dessart sont frappés par la forte et commune conviction des parents que leurs filles sont bel et bien vivantes. Une intuition qui est presque chevillée à leur corps. Les papas, Gino Russo et Jean-Denis Lejeune, et leurs épouses sont catégoriques. L'affaire de leur fille disparue devrait être prioritaire. Ils doivent avoir une idée précise sur l'état de l'avancement de l'enquête, ce qui est tout à fait légitime. À quoi rime ce silence des autorités ? Gino Russo dira cette phrase qui restera gravée dans les mémoires. On a besoin de réponses. C'est nos filles, pas les filles de l'État. Voilà qu'une affaire destinée à rester confinée au niveau local prend une ampleur nationale. Alors, si la conviction des filles se révèle juste, que sont devenues Julie et Mélissa ? Ont-elles été kidnappées par un réseau pédophile et séquestrées quelque part en Belgique ? Voire de l'autre côté de la frontière ? Ironie du sort, on découvrira par la suite qu'au moment même où les parents sont sur le plateau de la RTBF, les filles sont encore effectivement vivantes. Pour l'heure, la diffusion à l'échelle nationale de l'émission agace au plus haut point les enquêteurs. La raison ? Ils reprochent aux familles d'en faire trop, de trop parler, voire carrément d'exagérer et de dramatiser. Et c'est la juge Martine Doutrève elle-même qui se fait porte-parole des policiers. Elle s'insurge contre les parents. Si vous vous exposez publiquement devant les médias, que vous prenez la parole à notre place, il est hors de question que l'on vous dise quelque chose. L'émission de Léon Michaud et José Dessart a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase. C'est comme si on reprochait aux parents de se faire justice eux-mêmes. Ont-ils seulement le choix ? À partir de ce moment, les autorités, que ce soit la police, la BSN ou la gendarmerie, se replient dans le silence le plus opaque, une omerta inébranlable. Et pourtant, ce que les familles ignorent en ce moment, c'est que les gendarmes ont déjà le nom d'un suspect dans leur fichier. Un certain Marc Dutroux. Mais bien avant de continuer le fil de notre récit, nous allons revenir 2 mois en arrière, après la disparition de Julie et Mélissa. Nous sommes début août 1995, en Flandre. 2 jeunes filles de 18 ans, Anne Marshall et son ami Yfieu Lambrex, disparaissent mystérieusement alors qu'elles sont en vacances sur la côte à Oostend. Avant cela, avec d'autres amis, elles ont loué un bungalow pour passer leurs vacances. Dans la soirée du 22 août, Anne et Yfieu se rendent ensemble au casino de Middelkerk pour assister à un spectacle d'hypnose situé à l'autre bout de la ville côtière. Durant le show, elles sont invitées à monter sur scène par l'hypnotiseur afin de participer à une expérience. Le spectacle, filmé par des spectateurs, montre d'ailleurs les 2 amies, habillées l'une d'un débardeur rose et l'autre d'un t-shirt jaune, se prêtant au jeu du magicien. À la fin du spectacle, les caméras vidéo de surveillance du casino montrent les images des 2 jeunes filles marchant dans les allées. Quand elles quittent finalement le lieu, il est un peu plus de minuit. Anne et Yfieu prennent alors le dernier tramway qui fait un arrêt à Oostend. Elles ont encore un bout de chemin à faire à pied pour arriver à leur camping. Lorsqu'elles descendent au terminus, elles sont aperçues une dernière fois à proximité de la gare. Il est alors environ 1h30 du matin. Après, Anne et Yfieu disparaissent, sans laisser de traces. Le lendemain, leurs amis, inquiètes de ne pas les voir rentrer, préviennent immédiatement le père d'Anne, Paul Marshall, qui avertit à son tour la police locale. Mais le pauvre homme, à l'instar des familles de Julie et Mélissa, fait face à des policiers flamands moqueurs, voire vulgaires, qui refusent catégoriquement d'enregistrer sa plainte. Paul Marshall, homme pudique et intègre, est mortifié et scandalisé par l'attitude de ces derniers qui se contentent de lui dire « Vous vous faites du mauvais sang pour rien, elles ont dû croiser des gars et ont passé la nuit avec, c'est tout !» Pour reprendre les propres paroles du père d'Anne Marshall, « Votre fille est certainement dans le lit d'un homme à l'heure qu'il est, et vous êtes là à nous casser la tête avec une plainte !» Et il lui rit carrément au nez. Un policier pousse la hardiesse jusqu'à lui dire « Écoutez, je suis un homme marié, mais vous aussi. Vous pensez que ça nous empêche de regarder les autres femmes ?» Paul Marshall sait que sa fille est déjà engagée avec un garçon et qu'elle n'est pas du genre à fréquenter plusieurs partenaires ou à tromper son petit ami. Même chose pour les parents d'Yfieu. Ce n'est que le 6 septembre, soit deux semaines après la disparition des adolescentes flamandes, qu'un juge d'instruction est nommé. Il s'agit du juge Hissel. S'il est appelé pour intervenir dans l'affaire de la disparition d'Anne et Ifieux, c'est parce que les gendarmes souhaitent effectuer des écoutes téléphoniques depuis la maison de Paul Marchal, dans le but d'enregistrer un coup de fil significatif. Les dunes de la côte grise d'Oostende sont alors ratissées. Quelques témoins oculaires sont interrogés à la sauvette. En vain. Il faut se rendre à l'évidence. Les autorités sont incapables de les localiser. À ce moment des faits, personne ne fait encore le rapprochement entre la disparition de Julie et Mélissa et celle d'Anne et Ifieux au nord de la Belgique. Ni les autorités, ni les familles, ni les médias. Et l'enquête est dans la vase, elle s'enlise. La disparition des deux Flamandes, elle, est reléguée aux oubliettes. À partir de ce moment, il ne se passe plus rien. Mais vraiment rien du tout. Les deux enquêtes sont au point mort. Encore une fois, ce sont les parents qui, par leurs propres moyens, cherchent à trouver une explication à cette énigme insoutenable. Durant les fêtes de Noël, les familles Russo et Lejeune font le déplacement en Flandre pour rencontrer les parents d'Anne Marchal et ceux d'Ifieux-Lambrex, afin de faire le point sur les dossiers de disparition de leurs filles respectives, auxquels la police ne s'intéresse plus, d'un côté comme de l'autre du pays. Ils arrivent au même constat. À chaque fois qu'ils veulent en savoir davantage auprès des autorités, ces dernières tentent de les faire patienter, de minimiser les faits, quand elles ne les raillent pas carrément, comme ce fut le cas avec ce pauvre Paul Marchal, dont la fille disparue a presque été traitée de prostituée. Et puis, alors que personne ne s'y attendait, une cinquième disparition se produit. Cette fois-ci, il s'agit d'une fillette de 11 ans, prénommée Sabine Dardenne. Sabine se rend à l'école à 7h30 à vélo, comme à son habitude. Le soir venu, ses parents s'inquiètent de ne pas l'avoir rentrée. D'ailleurs, ni son vélo ni son cartable ne sont retrouvés dans tout le périmètre qui va de la maison à l'école. Et là encore, la gendarmerie ne fait absolument rien. Il faudra attendre la disparition d'une sixième fille, Laetitia Delay, 14 ans, pour que les recherches commencent un peu à bouger. Au moment de sa disparition, le 10 août 1996, Laetitia vient de quitter le complexe sportif de Bertry, où elle fait de la natation en compagnie d'une amie. Il est alors 21h. Le domicile familial n'est qu'à quelques mètres du complexe sportif. Laetitia et sa copine se quittent devant le seuil du club, puis elle disparaît. Ses parents entreprennent seuls les recherches avant d'avertir la gendarmerie qui organise dès le lendemain des battues. La mère de Laetitia n'adhère pas à la possibilité d'une fugue et elle est convaincue que sa fille a été enlevée. L'hypothèse de l'enlèvement est également avancée par les gendarmes. La disparition de Laetitia Delay aurait pu passer inaperçue et ignorée comme les précédentes. Mais cette fois-ci, les choses vont aller très vite. Comme pour Julie et Mélissa, des affiches avec sa photo et ses mensurations sont placardées un peu partout. On y voit le visage de l'adolescente, grande et athlétique, blonde aux cheveux courts, à l'air de garçon manqué. Dès le lendemain, le dossier est confié à la justice. Ici, deux nouveaux personnages entrent en scène. Il s'agit des procureurs Michel Bourlet et Jean-Marc Conrotte. À eux deux, ils vont devenir les super-héros de toute la Belgique. Contrairement à ce qu'il s'est passé avec les enquêtes précédentes bâclées, les deux magistrats prennent le dossier Delay très au sérieux. Sur leur ordre, la police fait dès le lendemain un appel à volontaires pour ratisser toute la région. En tout, 400 hommes répondent à l'appel et se mettent immédiatement à l'œuvre. Les grands moyens sont également employés pour trouver Laetitia, notamment deux hélicoptères qui survolent toute la région de Bertry. Les juges Bourlet et Conrotte sacrifient même leur week-end pour assister en personne aux opérations. Et il faut dire que cette rapidité d'action et ce pragmatisme se révèlent payants. À la fin du week-end, soit seulement deux jours après la disparition de l'adolescente devant le complexe sportif, les policiers déclarent détenir une piste. Et celle-ci aboutit grâce à l'enquête du voisinage, qui permettent aux enquêteurs de tomber sur un jeune homme de 22 ans. Ce dernier fait d'ailleurs une déclaration de taille. « Le vendredi après-midi, j'ai aperçu une camionnette blanche garée non loin du complexe sportif. L'individu qui était à bord m'a semblé louche. Il semblait attendre quelqu'un. » Le jeune témoin a la présence d'esprit de relever le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette en question. Il fournit aussi une description très claire du véhicule, suffisante pour identifier le suspect. Le propriétaire de ce véhicule s'appelle Marc Dutroux. Souvenez-vous, le même nom présent dans les fichiers de la gendarmerie et qu'ils n'ont pas voulu divulguer aux familles de Julie et Mélissa auparavant. La quarantaine, grand, athlétique, les cheveux noirs, portant une petite moustache, Dutroux présente bien. Le prototype même du voisin de palier passe-partout. Ce n'est bien sûr qu'une apparence. La police apprend qu'au moment des faits, Dutroux habite à Charleroi, au cœur de la Belgique. Officiellement, Marc Dutroux, comme l'atteste sa carte d'identité, est un simple ferrailleur. Mais les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir la face sombre de cet individu d'apparence si commune et si inoffensive. C'est ainsi qu'ils découvrent que dans le passé, il a déjà été condamné pour des infractions liées à la drogue, à des agressions sexuelles sur mineurs, et qu'il a même fait une fois de la prison. Né le 6 novembre 1956 à Ixelles, Marc Dutroux grandit dans une famille dysfonctionnelle appartenant au prolétariat, dans cette cité grise, pauvre et délabrée de Charleroi, dont le ciel est constamment plombé par la fumée des usines. Avec son père, il a des rapports conflictuels. Puis, les parents Dutroux se séparent et la maman se met en couple avec un jeune homme du même âge que son fils, qui vient s'installer chez eux. Marc déserte alors ce foyer dans lequel il commence à se sentir de trop et coupe tout lien avec sa mère. Sans éducation et sans réel potentiel, il fait des petits boulots par-ci par-là pour manger et se payer bière et cigarettes. Il lui arrive même de se prostituer pour le compte de clients masculins. Mais cette vie nocturne et potentiellement dangereuse ne le réjouit pas. Passionné par le patinage sur glace, il s'exerce régulièrement à la patinoire de la Louvière. Ceux qui le voient faire des pirouettes prodigieuses le qualifient même de talent prometteur. Le jeune espoir de patinage artistique se marie très tôt à 17 ans avec une jeune fille prénommée Françoise Dubois. Ensemble, ils ont deux garçons, arrivés l'un après l'autre. Mais la vie de famille ne semble pas être faite pour Dutroux qui préfère largement le monde de la nuit à ses responsabilités de père. En 1981, à la patinoire de Forest, il fait la rencontre d'une autre femme, une certaine Michèle Martin, une institutrice blonde de 21 ans. Les deux deviennent amants et Marc lui cache le fait qu'il est déjà marié et père de famille. Pour rester avec elle, Dutroux divorce de Françoise Dubois. Celle-ci l'accuse d'ailleurs de l'avoir souvent battue et avoir brutalisé leurs enfants. En 1983, il épouse finalement Michèle et le couple s'installe à Charleroi. Ensemble, ils ont trois autres fils. Mais cette nouvelle vie de famille ne le comble pas non plus. Michèle se montre cependant soumise et cela lui plaît bien. Elle pourrait faire tout ce qu'il dit sans se défiler. Ferrailleur dans les papiers officiels, la descente aux enfers de Dutroux est déclenchée. Ses premières incursions dans le monde du crime commencent lorsqu'il est impliqué dans des vols de voitures et d'autres délits mineurs, notamment des actes d'exhibitionnisme. Cependant, ce n'est que le début d'une carrière criminelle qui va s'assombrir de manière tragique. Les premiers signaux d'alerte sérieux apparaissent lorsqu'il est condamné pour des affaires de viol et d'agression sexuelle au milieu des années 80. La plupart des victimes, par peur de représailles, ne portent pas plainte. Dans ces années-là, c'était une chose malheureusement très courante et les policiers eux-mêmes ne prenaient pas les plaintes des victimes au sérieux. De toute façon, beaucoup sont préoccupés par un autre fait divers qui terrorise le royaume à cette époque, l'affaire des tueurs fous du Brabant. Une aubaine pour Marc Dutroux, qui essuie ses méfaits sans une égratignure. Pour gagner de l'argent, il s'essaye à tout, ne recule devant rien. Il vole sa propre grand-mère, puis se met à la traite des blanches, entre guillemets, se déplaçant régulièrement en Moldavie et en Albanie pour ramener des filles qu'il prostitue en Belgique ou qu'il viole, parfois même en présence de sa femme, complètement tétanisée mais incapable de faire un geste pour l'en empêcher. Il reproche d'ailleurs à cette dernière de ne pas lui avoir donné de fille pour qu'il puisse l'initier à l'inceste. Au début des années 90, Dutroux fait l'acquisition d'une camionnette blanche afin de transporter sa ferraille. Mais c'est pour bien d'autres motifs. À présent, il lui arrive de rester des heures garé discrètement derrière les écoles et les centres de jeunesse, observant les petites filles et les adolescentes. Son plan machiavélique se met en place. Le rapt des fillettes sans défense sera désormais sa vocation. Après la déclaration du voisin de Laetitia Delay qui a permis d'identifier le suspect, les choses s'accélèrent. Le 13 août 1996, la tragédie frappe lorsque des ouvriers en construction découvrent une espèce de pièce souterraine dans la propriété d'un certain Marc Dutroux à Marcinelle, près de Charleroi. Le propriétaire passe rapidement aux aveux. Oui, c'est bien lui l'auteur du kidnapping de Julie et Mélissa, d'Anne et Ifieux, de Sabine et Laetitia. Finalement, après plusieurs semaines d'enquête, la police finit par perquisitionner la maison de Dutroux à Marcinelle, près de Charleroi. De cet antre du diable, une espèce de taudis aménagé dans une cave sans aération, les policiers font sortir deux rescapés, deux miraculés, Laetitia Delay et Sabine Dardenne. Elles sont sauvées de justesse. Toutes les deux sont restées 80 jours prisonnières dans la sordide et insalubre cave du monstre qui descendait régulièrement les violer. Dutroux, bourré de pilules contraceptives la plus âgée, Laetitia, car elle venait pour la première fois d'avoir ses règles, et il craignait qu'elle ne finisse par tomber enceinte. Ces viols répétitifs se déroulaient souvent en présence de la femme du sadique, Michel Martin, qui maintenait même parfois les filles quand elles se débattaient pour échapper à son emprise. Les policiers et les journalistes qui descendent pour voir la cachette sont complètement submergés par l'émotion, le dégoût et l'horreur. L'intérieur est une espèce de trou auquel on accède à travers une trappe installée dans un mur. Puis, on descend par une échelle un peu plus bas dans l'antre du diable. Un taudis cauchemardesque, sombre, sans sanitaire, avec des lits de prisonniers et des matelas de fortune. Des paquets entamés de contraceptifs sont retrouvés sur place. Comment un enfant peut tenir ne serait-ce que 10 minutes dans un endroit pareil ? S'insurge le journaliste Michel Bouffiou, horrifié. À présent, ils le tiennent. Si Sabine et Laetitia réussissent à regagner saine et sauve leur famille, malgré le choc post-traumatique, les autres filles n'ont pas cette chance. Dans le terrain qui fait office de jardin, on fait une autre découverte qui glace le sang de la nation. Des restes humains, qui seront identifiés plus tard comme étant ceux de Julie Lejeune et Mélissa Russo, et les deux adolescentes flamandes, Anne Marshall et Ifieux Lambrex, disparues à Ostende, au cours du même été, en 1995, à deux mois d'intervalle. Le sort des quatre victimes a été épouvantable, car elles ont été littéralement enterrées vivantes après avoir subi durant plusieurs jours d'affilée de nombreux sévices. Julie et Mélissa, quant à elles, sont mortes de faim, privées d'eau et de nourriture durant les derniers jours de leur détention dans la cave. Ces découvertes macabres exposent en plein jour l'ampleur des activités criminelles de Dutroux et de son réseau. Elles déclenchent un choc terrible et une colère généralisée dans toute la Belgique. Oui, car le monstre de Marcinelle avait des complices qui ont été impliqués dans ces crimes abominables. Ces derniers ont joué différents rôles dans la mise en place du réseau pédophile, allant de l'enlèvement et de la séquestration des victimes à la fourniture d'argent, de médicaments et de logistique. Parmi les complices les plus notables de Marc Dutroux, on peut citer Michel Martin, l'épouse, directement impliquée dans plusieurs aspects des crimes commis par son mari, elle est accusée d'avoir aidé son mari à enlever, séquestrer et violer les jeunes filles. Michel Lelièvre, un jeune toxicomane et complice clé de Marc Dutroux, il est impliqué dans l'enlèvement de plusieurs jeunes filles, ainsi que dans la surveillance et la garde des victimes séquestrées. Michel Nihoul, une autre figure controversée qui aurait été liée au réseau de Marc Dutroux. Bien que son implication exacte dans les crimes n'ait jamais été pleinement établie, Nihoul est accusé d'avoir joué un rôle dans le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. D'autres complices ont également été impliqués de près ou de loin dans les différents rapts, mais les trois individus cités juste avant figurent parmi les plus notoires. Leur participation au crime de Dutroux a été cruciale pour la planification, l'exécution et la dissimulation de ces actes odieux. Suite à ce dénouement douloureux, la Belgique est au bord de l'explosion. Du nord au sud, de la Flandre à la Wallonie, les manifestations s'enchaînent. Des ouvriers font grève pendant des jours et une marche blanche massive est organisée à Bruxelles, en soutien aux parents des victimes, où des participants de toutes nationalités, belges et non-belges, marchent en silence. L'émotion est terriblement forte, les larmes sincères. La colère envers Dutroux et ses sbires est implacable. Certains veulent carrément s'en prendre à lui et le tuer de leurs propres mains. C'est comme si le temps s'était arrêté dans le pays, et les médias du monde entier ont les yeux braqués sur le royaume, jusqu'ici sans problème, et qui se retrouve avec une affaire qui le dépasse et le met à genoux. Tous les parents s'identifient à ceux de Julie et Mélissa, d'Anne et d'Ifieux. Durant la marche blanche, Paul Marshall, le père d'Anne, est accueilli en héros, souriant à la foule et réprimant ses larmes. Je me sentais un peu comme un roi, plaisante-t-il aujourd'hui. Un seul mot dans toutes les bouches. Assez. Et que des actes de ce barbarisme envers des enfants innocents ne se répètent plus à l'avenir. Reste à présent à punir les coupables. La vague massive de solidarité n'est pas parvenue à empêcher que le juge d'instruction Jean-Marc Conroth soit écarté de l'affaire Dutroux en raison d'un conflit d'intérêts potentiel lié à sa participation à un événement de collecte de fonds pour les familles des victimes. En effet, en octobre 1996, quelques mois après le début de l'enquête sur les activités du prédateur, le juge a assisté à un dîner de bienfaisance organisé par des associations de soutien aux familles des enfants disparus, dont celle des victimes de Dutroux. Lors de cet événement, Conroth a été photographié en train de manger avec les parents des enfants disparus, ce qui a suscité des critiques quant à son impartialité dans l'affaire. Bien qu'il ait agi avec des intentions louables en soutenant les familles, cette participation a été considérée comme compromettante du point de vue de l'impartialité judiciaire. En conséquence, il a été relevé de l'affaire Dutroux en octobre 1996 par la Cour de cassation belge. Cette décision a suscité une vive controverse et a été critiquée par de nombreux observateurs qui estimaient que Conroth était un magistrat intègre et compétent. Certains ont vu son retrait de l'affaire comme une manœuvre visant à entraver l'enquête sur les réseaux pédocriminels présumés, tandis que d'autres ont soutenu que cela était nécessaire pour garantir l'impartialité du processus judiciaire. Quoi qu'il en soit, le départ de Conroth a entraîné des répercussions sur l'enquête et le procès ultérieur, et a alimenté les théories du complot et les spéculations sur d'éventuelles interférences politiques dans l'affaire Dutroux. Marc Dutroux et sa femme Michèle sont arrêtés en août 1996. Dutroux est accusé d'avoir enlevé, séquestré et abusé sexuellement plusieurs jeunes filles, tandis que Michèle Martin est accusée de complicité. L'enquête dure encore 7 ans. Les survivantes, Sabine Dardenne et Laetitia Delay, souhaitent absolument assister au procès du monstre. Sabine Dardenne dit cette phrase bouleversante. « Je veux regarder Dutroux dans les yeux et lui montrer que je ne suis pas devenue folle malgré tout ce qu'il m'a fait subir. » Durant le procès retentissant qui s'ouvre aux assises d'Arlon en mars 2004, plusieurs centaines de journalistes sont présents. L'accusé et ses complices, menottés et empêtrés dans des gilets pare-balles, sont conduits et reconduits des tribunaux aux fourgonnettes sous les huées, les jets de pierre et les insultes de la foule qui les attend de pied ferme à chaque déplacement. Marc Dutroux ne bronchera pas une seule fois, pas plus que sa femme, le visage toujours à moitié caché par sa frange blonde ou couverte d'une veste. Au cours du procès, les juges découvrent que Dutroux est un individu complexe, mais plusieurs traits de sa personnalité ont émergé dans le cadre de son histoire et de son implication dans l'affaire qui porte son nom. Réputé pour être un manipulateur habile et un charmeur, il a su gagner la confiance de certaines personnes de son entourage, y compris de ses complices, en utilisant son charisme pour dissimuler ses intentions malveillantes. Les enquêteurs et les experts le décrivent comme étant très calculateur dans ses actions. Il aurait minutieusement planifié ses enlèvements et ses crimes, évitant souvent de laisser des preuves tangibles de ses actes. Il ressort, des témoignages et des preuves, des victimes survivantes et d'anciennes compagnes de Dutroux, qu'il était un individu particulièrement sadique et violent. Certains spécialistes sont persuadés qu'il présente des traits de psychopathie et de narcissisme, caractérisés par un manque d'empathie, un comportement impulsif et une propension à manipuler les autres pour son propre bénéfice. Le procès du démon belge a été l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire judiciaire du pays. Les audiences ont été marquées par des témoignages poignants, des révélations choquantes et une atmosphère de tension palpable. Dutroux et plusieurs de ses complices ont été reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, dont l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre. En tout, il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et violé 6 fillettes et adolescentes, et d'en avoir assassiné 4, à savoir Julie, Mélissa, Anne et Ifieux. Reste à savoir s'il n'y a pas eu d'autres victimes. Son verdict est déjà connu. Perpétuité, sans espoir de remise de peine. Michèle Martin est quant à elle condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Michel Lelièvre a témoigné contre Dutroux lors du procès et a été condamné à 25 ans de prison ferme pour son rôle dans les crimes. Michel Nihoul, de son côté, a été acquitté des accusations les plus graves lors du procès, mais a été condamné à 5 ans de prison pour des infractions liées à la drogue. Il reste malgré tout un personnage énigmatique et potentiellement dangereux. L'affaire Dutroux a eu un impact durable sur la Belgique et au-delà. Elle a mis en lumière de graves défaillances dans le système judiciaire et a provoqué un débat national sur la protection de l'enfance et la surveillance des délinquants sexuels. Des réformes ont été entreprises pour tenter d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Marc Dutroux restera jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle comme l'un des criminels les plus notoires et détestés de Belgique. Âgé aujourd'hui de 68 ans, Marc Dutroux est toujours derrière les barreaux de la prison de Nivelles, vivant dans une cellule de 9 mètres carrés et mis en isolement strict, qui limite ses visites et son accès aux autres détenus. Michel Martin, qui a divorcé de Dutroux pendant leur incarcération, a été libéré en août 2022. Durant ses années derrière les barreaux, elle a obtenu un diplôme en droit. Aujourd'hui libre et âgée de 63 ans, on sait peu de choses à son sujet. Sabine Dardenne et Laetitia Delay ont réussi, grâce à leur famille, à tourner la page de cette horrible histoire qui a marqué leur enfance et une grande partie de leur jeunesse. Aujourd'hui trentenaires, elles se disent « guéries » entre guillemets, et sont toutes les deux mariées et mamans. Au-delà de l'horreur des crimes de Marc Dutroux, il est important de se souvenir des victimes innocentes de ces actes. Julie Lejeune, Mélissa Russo, Anne Marshall, Ifieu Lambrex et tant d'autres jeunes filles anonymes dont on ne connaîtra sûrement jamais l'identité. Leur mémoire demeure toujours vivante dans le cœur des Belges et de tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.